Cuisine Libre, un jeudi sur deux de 19h à 20h. Avec mes invités, je me penche sur l'actu, la culture, la politique, mais pas que. Et le tout sans tabou. C'est Ton Libre sur HDR.
Sur HDR et c'est Ton Libre. Ça faisait une éternité que vous n'aviez pas entendu ce générique. Et oui, je suis désolée, la dernière fois que nous étions dans ce studio, c'était en juin 2014, et puis nous nous étions retrouvés au mois de septembre pour une émission spéciale, c'était Parking Day, mais depuis, Ton Libre s'est tu. Mais ce soir, 22 janvier 2015, Ton Libre reprend du service avec ses chroniqueurs, et aujourd'hui, ils sont nombreux en face de moi pour parler en ce début d'année de liberté, d'engagement, d'action. Et ils ont plein de choses à nous proposer. Et puis évidemment, que se dit-il? Quel Ton Libre se passe-t-il de l'autre côté de l'eau? Ça sera la chronique de Stéphane-Emmanuel Renaud-Dauphit qui est comme d'habitude avec nous pour cette émission avec une chronique qu'il a enregistrée. Eh bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver, de retrouver le studio de HDR. C'est Ton Libre jusqu'à 20h. Et ben c'est le moment de dire bonjour à toute la bande de chroniqueurs qui sont juste en face. Bonjour les chroniqueurs.
Salut.
Alors, je vais commencer à aller dans l'ordre, dans un certain ordre. Il en faut toujours un. Alors, salut Emilien.
Salut Rebecca.
Alors, depuis la dernière fois qu'on s'était vu, tu étais devenu le grand reporter d'HDR et ce soir, tu continues sur ta lancée, je crois.
Ouais, tout à fait, le petit grand reporter, je t'en fais bondir. Ouais, voilà, donc je suis allé suivre la manifestation, enfin le rassemblement qui a eu lieu le 11 janvier dernier. Et voilà, j'ai donné la parole, voilà, tout à fait, aux personnes qui étaient là, qui se sont rassemblées, voilà.
Très bien, bah, on va découvrir ça tout à l'heure. Ensuite, Marie. Bonsoir, Marie.
Bonsoir.
Alors, Marie, on s'était, tu avais proposé une chronique pendant Parking Day.
Oui, absolument.
Voilà, et te voilà en ce début d'année 2015. Là aussi, tu avais des choses à dire, un ton libre à livrer à tous nos auditeurs de Rouen, de la région, mais aussi de partout dans le monde, puisque vous pouvez nous écouter sur www.radiohdr.com.
Dans l'onglet à écouter.
Voilà. Ensuite, Emma. Bonsoir, Emma.
Bonsoir Rebecca.
Alors, si je comprends bien ce qui se passe en face de moi, vous n'avez pas de son dans le studio, mais uniquement dans le micro. Mais voilà. Ou sinon, il faut lire sur mes lèvres. Je vais essayer d'articuler. Comment vas-tu Emma? Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Bon, bah super. Parfait. Et puis, tu es venue avec Mathieu, qui est à côté de toi.
Oui, c'est ça, de Montpellier.
Voilà. De Montpellier, très bien. Ah, c'est pour ça que tu es emmitouflé, comme si tu étais prêt à descendre des pistes de ski. Parce qu'il fait un peu froid en Normandie, n'est-ce pas?
Je confirme, il a très très froid.
Mais tu vas voir, en une heure dans le studio, tu vas très vite te réchauffer, tu verras. Ensuite, nous avons Hélène. Bonsoir Hélène.
Salut.
Alors, comment vas-tu bien, Hélène?
Bah, toujours super bien quand je suis sur HDR.
Eh ben voilà, parfait. On retrouve les bonnes vieilles habitudes, ça fait énormément plaisir. Et puis Guillaume, qui est là également.
Salut Rebecca.
Alors, tu viens d'où? D'une sieste? D'une bière avec tes potes?
La bière, c'est pour après.
Ah, c'est pour après. Très bien, j'espère qu'on est invités.
Tous ensemble, évidemment.
Voilà, parfait, super. Et ben voilà, l'équipe est au complet, c'est Ton Libre jusqu'à 20h. Et pour commencer, eh bien, reprenons les bonnes vieilles habitudes. Nous allons écouter un petit peu de musique.
Un homme pouvait être
blanc, noir, jaune, rouge et puis c'est tout.
Mais une autre race est en train d'apparaître.
C'est les azous,
c'est les azous.
Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales,
avec un veston qui descend jusqu'aux genoux,
les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale.
Voilà les azous,
voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier.
Moi je le suis déjà à moitié.
À votre tour, âme de séjour,
vous serez tous azous comme nous, car le azous c'est contagieux.
Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement,
et puis on pousse des hurlements.
Ouah, des dizzy, des doux.
Ouah,
si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est zazou, il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié, un de ces jours ça vous prendra. À son futur gendre avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est zazou, elle est zazou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef Scar qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis zazou, je suis zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société, devant payer sa dette, devant la guillotine, Jajan, il dit, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Azou, je suis Azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est Azou, il est Azou. Il y a des Azou dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Azou on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera. Quand sur les douches on chantera comme ça.
C'était Il y a des Azous. Si je ne m'abuse, j'ai cru reconnaître la douce voix de Brigitte Fontaine et peut-être de M qui l'accompagnait, un choix de Guillaume ce morceau.
Tout à fait.
Voilà, waouh, j'ai reconnu. Et ça me fait des points un peu peut-être pour un quiz. Éventuellement, j'en prends quelques-uns d'avance.
Tout à fait.
Donc en fait, alors, pour rappel, de 17h à 19h sur HDR, vous écoutiez une émission spéciale Charlie Hebdo, la liberté d'expression, qui était en direct depuis au bar Le Soumam, Rouen-Rive-Gauche. Donc plein de choses intéressantes ont pu être dites. Et puis alors, on n'est pas forcément exactement sur le même sujet que l'on souhaite continuer à décliner pendant toute une heure, mais en tout cas le thème de la liberté, de la liberté d'expression, ça nous a aussi donné envie de retrouver le studio pour en parler avec quelques azous. Ils sont au moins 6 en face de moi, des azous. Et je pense que le premier azou de la soirée, je verrais bien Emma par exemple.
Oula. Moi, je veux bien passer mon tour à quelqu'un. J'ai juste un petit, une petite lecture, mais.
Ah d'accord. Donc la lecture pour un peu plus tard.
Mais oui, pourquoi
c'est comme, enfin.
Ou maintenant, hein.
C'est... Ah bah maintenant. Bah, bon, voilà, allez. Commençons par une lecture. Après de la musique, une lecture.
Allez, c'est parti. Donc c'est un extrait de L'existentialisme est un humanisme de Sartre.
Oh oh.
Donc, qui nous dit, Dostoïevski avait écrit « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis ». C'est là le point de départ de l'existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n'existe pas, et par conséquent, l'homme est délaissé parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s'accrocher. Il ne trouve d'abord pas d'excuse. Si en effet, l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme est liberté. Si d'autre part, Dieu n'existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Ainsi, nous n'avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses. Nous sommes seuls sans excuses, c'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre. Condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même et par ailleurs... Cependant libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'était de Sartre.
Et bien c'est une très belle entrée en matière.
Et voilà, tout ça pour dire donc que Sartre affirme la liberté absolue de l'homme, et ce qui rend donc l'homme pleinement responsable de ses actes et lui fait prendre conscience de cette responsabilité.
Ouais.
Voilà pour la petite citation.
C'était bien de commencer par ça parce qu'il y a plein de mots-clés là qu'on a entendus. Liberté, les valeurs, excuses, l'homme face à ses responsabilités. Donc je pense que ça ouvre bien le sujet. Alors Émilien, justement, lors de ce reportage que tu es allé faire, il est en deux parties, on va en écouter une première partie juste après. Est-ce que justement tu as senti que ces mots forts autour des valeurs, de responsabilité de l'homme, de s'excuser ou pas. C'est des mots que tu as peut-être entendus.
Ah bah, en fait, effectivement, il y avait plein de choses qui animaient ces personnes-là lors du rassemblement. Moi, ce que j'ai ressenti d'abord, c'était l'émotion, parce que c'était quand même très peu de temps après les événements. Ouais, donc voilà. La question de la responsabilité, c'est pas vraiment des choses qui ont été évoquées. Ce qui a été évoqué, c'est plutôt l'indignation, de la colère pour certains, on l'entendra. Et puis, oui, je ne sais pas, très bien.
Partons à la rencontre alors de ces Rouennais, en tout cas d'habitants de l'agglo rouennaise, j'imagine pas forcément uniquement de Rouen. On les écoute une première partie, puis on réagit ensemble à ce que l'on aura entendu.
C'est parti.
Janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée pour que leurs cartouches d'encre à eux ne soient plus jamais vidées. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires.
Je voulais simplement savoir ce qui vous a poussé à venir ici aujourd'hui.
Il se trouve que par hasard, on s'est retrouvé à 500 mètres du siège de Charlie Hebdo mercredi. Enfin, totalement par hasard. Et,
de toute façon, on serait venu.
On serait venu de toute façon et on a maintenant l'impression que c'est personnel. Ça nous choque beaucoup. Et on est vraiment heureux qu'il y ait tant de gens qui viennent pour manifester leur solidarité.
Vous portez un petit écriteau, je suis Charlie, ça signifie quoi pour vous aujourd'hui?
C'est rester debout, être libre.
Professionnel et amateur, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression. Contre l'obscurantisme avec honneur et insolence.
Vous pouvez lire votre écriteau.
Merde, odieux de tout poil. Voltaire et Gobet.
La foule est compacte aujourd'hui, on sent une vraie...
Ouais, alors je vous dis franchement, je voulais pas venir parce que ça sent la messe et c'était carrément contre l'esprit de Charlie Hebdo. En plus, moi je suis de cette génération-là, de Charlie Hebdo, un art, et ça m'emmerdait parce que tous ceux qui crachaient sur Charlie Hebdo, aujourd'hui ils sont là. Hein. Mais j'ai tenu à venir aujourd'hui. Hein. Il faut rappeler que... Charb, ils ont eu un fatwa pour justement Mahomet. C'était religieux. Il faut redonner le pouvoir à la laïcité, à la culture, absolument. Il faut remettre Voltaire, Rousseau, Victor Hugo dans les écoles. Il ne faut pas donner un espace à la connerie et les Zemmour, les virer de la télé. Les virer, il faut redonner le pouvoir au peuple. Le peuple, c'est inviter les gens, des humbles, à la télé. Ils ont un tas de trucs à dire.
Cette chanson se sirote en pleurant à la recherche des absents au soleil.
La pluie, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici?
Je crois que c'est un sentiment, je veux dire, à la fois républicain, je veux dire carrément, je pense ça, et puis aussi, bien sûr, une grande émotion pour toutes ces morts qu'il y a eu récemment. Et puis aussi, j'ai eu une autre pensée, si c'est possible de repousser tous les amalgames. Essayons d'être, c'est moi qui parle bien sûr, essayons d'être le plus multiculturel possible, sans repousser, sans essayer de se refermer, parce que c'est ça qui nous fait craindre aujourd'hui, les oppositions entre les personnes, c'est ce qui me fait craindre.
Beaucoup de gens portent un écriteau comme vous, je suis Charlie. Est-ce que ça a une signification particulière aujourd'hui? Ça signifie quoi, la liberté, la résistance?
Ça signifie la liberté d'expression. Ça signifie aussi porter un message fort pour dire surtout pas à genoux. Restons debout.
Merci.
Merci beaucoup.
Cette chanson s'oscille en pleurant à la recherche des absents au soleil.
Un petit Larsen. Surprise. Donc on sentait l'émotion des personnes que tu as rencontrées. Je suis très d'accord avec le monsieur qui a dit faut sortir Zemmour hors des plateaux de télé. Et par contre, un autre qui disait à l'ouverture vers l'autre pour mieux se comprendre, éviter et puis ne pas se rejeter. Je pense que c'était des mots importants qui ont été dit.
Oui, complètement. Et puis pour rebondir un peu par rapport effectivement au texte qu'a lu Emma, par rapport à la responsabilité, ces gens ont ressenti la responsabilité effectivement d'aller dans la rue, soutenir Charlie Hebdo pour certains, et puis aussi pour d'autres, c'était simplement un acte de résistance quoi, face à l'obscurantisme, face à l'intégrisme quoi.
Est-ce que ça vous fait réagir les azous là? Alors, je dois les excuser, mes pauvres chroniqueurs, parce que ils doivent se passer les micros pour entendre tout ce qui se dit, tout ce qu'on est en train de dire. Alors, on écoutera un peu plus tard la deuxième partie du reportage. J'ai bien aimé aussi les sons que tu as intégrés dans ce sujet, puisqu'on entend Grand Corps Malade et Oxmo Puccino, qui se sont aussi mobilisés en tant qu'artistes pour écrire et partager leur sentiments par rapport à ce qui venait de se passer en ce 7 janvier 2015. Mmh. Bon, eh bien... Je vous propose que pour de passer un peu du reportage à la chronique studio, Marie, toi aussi le sujet de la liberté d'expression, c'est un sujet qui t'est très cher et que ces attentats terroristes en début d'année ont peut-être encore renforcé cette envie de partager avec nous.
Mais c'est certain que un événement pareil et puis enfin dire une succession d'événements pareils et des réactions aussi massives et aussi vraiment aussi épidermiques forcément génère un tas de réactions. Et la vraie question pour ma génération, je dois être la plus vieille du studio, c'est de se dire qu'à un moment donné, on a merdé. La vérité, c'est ça. On a merdé. On s'est dit évidemment, voyons, on s'est gargarisé de penser que la liberté, on l'avait. Nous, si fiers d'être français, que c'était acquis. Un peu comme si c'était dans nos gènes, dans notre ADN. Eh bien oui, nous, Français, nourris au sein de liberté, égalité, fraternité, c'est tellement écrit partout qu'à force, on ne regarde plus d'ailleurs. On a oublié de lire et surtout, on a oublié de le faire vivre. Parce que la vérité, c'est que l'humain et la liberté, c'est un peu comme un couple, une histoire d'amour. Avec des hauts, des bas, des conditions, des compromis avec soi-même et avec les autres. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne regardes plus, ou plus vraiment, tu ne prends pas soin et un jour l'autre se barre. Et tu te croyais l'avoir conquis, ad vitam aeternam, cette liberté, et tu te retrouves comme un imbécile, esselé, ébranlé, lessivé, viré, terrorisé. Alors oui, on a merdé parce qu'on n'a pas su remettre du terreau pour que nous et la liberté, on puisse s'épanouir ensemble. Parce que quand il y a un coup d'État quelque part, on n'a pas vraiment envie de savoir. Quand il y a de la guerre et des ogres prêts à tout dévorer là-bas, on préfère regarder l'amour est dans le pré et se moquer des candidats sur Twitter. On a merdé en laissant la religion, le sexe, le pouvoir et le fric bouffer notre société et devenir une arme de destruction massive pour des tarés sectaires, barbares et morbides. On a merdé d'être futile parce qu'on n'en a pas été assez vigilant, pas assez militant, pas assez intransigeant. Parce qu'on n'a pas lutté avec assez de vigueur contre les inégalités, contre la pauvreté, contre la déculturation. On a merdé parce qu'on n'a pas été assez irrévérencieux aussi. En 2015, la vérité crue, c'est pas assez élégant, pas assez diplomatique pour bien survivre en société. On n'a pas su faire fructifier l'héritage de nos parents, qui eux-mêmes ont fini pour la grande majorité par renier une partie des libertés revendiquées en 68. Et la question c'est, putain, à quoi ça sert d'avoir balancé des pavés dans la gueule des flics, lui harakiri, forniqué comme des sauvages, fumé des pétards et pris du LSD dans les rats de nichés au milieu des dockers, si tes enfants à la quarantaine bourgeoise ont peur de se faire chourer leur sac Hermès dans le métro ? Et préfère surfer sur Twitter plutôt qu'ouvrir un bouquin de Schopenhauer et trouve que polisser les idées, c'est plus confortable. Alors on a merdé parce qu'on a préféré se couler dans le confort survendu par des multinationales plutôt que de se battre pour ce en quoi on croyait vraiment. On a merdé parce qu'on a chacun un peu, et parfois beaucoup, laissé la société devenir ce qu'elle est. On est tous comptables et tous co-responsables. En oubliant que ce qui faisait vibrer nos âmes d'adolescents pendant les manifs après la mort de Malik Houssekine, alors vous êtes un peu jeune, mais c'était en 86, et en ne transmettant pas ça aux générations qui nous suivaient. Et c'est quand même dingue d'être né sous Pompidou et de se réveiller avec la gueule de bois, de voir que des trentenaires nés sous Mitterrand préfèrent donner la mort plutôt que de faire fructifier des idées positives. C'est bizarre, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'au rassemblement qui ont tant ému la France le 11 janvier et dont on vient de voir entendre des sons, finalement, on n'a pas vu tant que ça de jeunes. On a vu des adultes et des mômes, mais les 18-30 ans n'étaient pas si présents que ça. Est-ce qu'à dire qu'on a laissé une génération entière rater la lumière ? On a merdé, et toute la question aujourd'hui est de savoir quelle seconde chance on va se donner avec cette histoire d'amour entre nous, humains de France, et la liberté. Comment on va faire pour s'aimer à nouveau et pleinement ? Il ne s'agit pas de tomber dans l'angélisme dégoulinant ni de théoriser à bloc. Il s'agit, pour moi, de lutter ardemment et de sortir de sa zone de confort, accepter que l'autre nous bouscule, nous dise des vérités pas très agréables, s'obliger à voir autrement. Il va falloir maintenant finalement se battre pour être vraiment libre. Libre de nos idées, de nos actes, de nos mots. Libre de nos décisions, de nos gestes. Libre en n'acceptant pas qu'une poignée confisque ce qui appartient à tout le monde. La politique, la laïcité et la liberté. La liberté de dire, de croire, de faire ou non. D'écrire, de peindre, de dessiner, de chanter, d'être, tout simplement.
Merci Marie pour cette chronique très forte. Je partage vraiment ton sentiment. On a merdé. Et c'est vrai que c'est. Alors je pense qu'on ne l'a pas tant entendu aussi clairement et aussi clairement affirmé. Donc je te remercie de le faire avec nous dans ce ton libre sur HDR. C'est vrai que la question que moi personnellement que je me pose, peut-être que vous la partagez aussi, c'est qu'on sait beaucoup, on entend depuis cette semaine de janvier et après. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait. On est des constats sont assez partagés, mais ensuite comment chacun à son échelle on reprend justement, on redevient moteur, acteur de cette citoyenneté, du vivre ensemble pour faire bouger les lignes. C'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet, et je pense que pour ma génération, qui est la génération des 40-50, hein, qui a des parents qui ont manifesté pendant 68, on s'est un peu révolté contre ça, cette espèce d'envie de faire bouger les lignes, et on s'est laissé couler. Alors je crois qu'il y a des vraies questions par génération aussi. À mon avis, l'embourgeoisement, ça fait aussi partie des choses qu'il faut re-questionner, et que peut-être sortir... C'est pas si compliqué de ça hein, que de sortir de sa zone de confort. En même temps, ça demande un peu de volonté. Mmh. Je crois que chacun doit, par des toutes petites choses, mis bout à bout, ça peut faire des grandes choses.
Ouais. Et alors ça, il faut réussir à le réinsuffler dans le plus grand nombre. Et c'est pas...
C'est pas simple.
C'est pas simple, c'est pas gagné. Est-ce que ça vous fait réagir ? Vous avez un mot que vous voulez dire par rapport à ça ou, Cher chroniqueur, Émilien, je te vois hocher la tête.
Ouais, tu parles notamment effectivement, du fait que la liberté était un peu considérée comme un acquis, peut-être, à un moment donné. Et moi, ça me questionne aussi, parce que j'ai été enseignant pendant un petit moment, et c'est vrai que c'est cette notion notamment des valeurs de la République. Quand on est enseignant, on a un peu tendance à considérer que c'est un acquis pour les élèves, et puis qu'on a simplement des petits rappels à l'ordre comme ça à faire ponctuellement. Alors en fait, effectivement, on se rend compte que pas du tout, quoi. Mmh. C'est vraiment des choses qu'il faut travailler au quotidien, mais on n'a pas forcément... d'une part, on n'a pas forcément l'habitude de faire ça, on n'a pas forcément été formé pour ça. Et puis deuxièmement, comment le faire concrètement, quoi. Comment on enseigne, comme tu le disais, effectivement, les valeurs de la République aux enfants. Ça, c'est vraiment des questions qu'on est en train de se poser actuellement, c'est de l'après, quoi.
Ouais.
Alors... Oui, moi ça me fait penser à... Parce que j'ai cherché pas mal de choses sur Internet pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et comment mieux comprendre aussi l'après et ce qu'on pouvait faire ou pas et se remettre en question et essayer de mieux comprendre tout simplement au sens large. Et c'est vrai que j'ai écouté une interview de Boris Cyrulnik qui était très intéressante, parce qu'il expliquait que en fait il y avait une part de responsabilité de la société effectivement qui disait qu'on avait laissé tomber les gamins des cités et qui étaient complètement laissés à l'abandon et qu'on les avait vraiment exclus aussi de la société au sens large. Et là, on ne parle pas de religion, de quoi que ce soit. C'est juste une misère sociale qui s'est installée dans des endroits où on les a laissés là avec aucune porte de sortie. Et là, bah, évidemment, bah, y a des gens qui en profitent et qui viennent les chercher et qui leur inculquent, voilà, qui leur bourrent le crâne de plein de choses et qui les entraînent. Et leur seule voie de sortie à ces gamins-là, pour eux, ils choisissent de mourir, pas en martyr, parce que voilà, mais en tuant des gens et en faisant des actes violents. Alors que voilà, c'est comment des gamins de chez nous voilà, sont capables d'être embrigadés dans un système, parce que c'est aussi, c'est pas un acte de folie comme il peut y avoir dans toute société, c'est pas des fous. C'est juste, ils ont été embrigadés, voilà.
Et d'ailleurs, et Marie, tout à l'heure, dans sa chronique, parlait bien de secte. Hein,
c'est oui, vrai, c'est ça, c'est une forme de sectarisme. Ouais, de
c'est,
secte, ouais.
C'est très clairement, on est aujourd'hui un grand débat sur, on oppose religion, mais en fait, la vraie réalité, c'est que ça n'a strictement rien à voir avec la religion.
Non,
ce serait, c'est un prétexte.
Oui, c'est un prétexte, c'est un support.
Sont convaincus, mais quand le Boko Haram, ne respecte pas la religion au nom de laquelle il se prétend agir. Clairement, l'islam, si vous lisez le Coran, ne dit pas qu'il faut faire en sorte que les petites filles se fassent violer ou se fassent sauter au milieu d'une population. Et pour en revenir au fait des banlieues, je pense très sincèrement que c'est vrai qu'il y a une concentration de jeunes avec de pauvreté et tout, mais je crois aussi que dans tous les milieux, et je pense qu'au fin fond de la Creuse, comme de l'Ardèche, comme en Bretagne, ou à Lyon, à Lille, à Paris, il y a des gens à qui on n'a pas ouvert la porte de la culture et on n'est pas allé au-devant de l'éveil, de la conscience, de plein de choses. Et je pense qu'effectivement, le milieu social fragilisé est un vrai terreau pour tout un tas de choses, mais aussi pour des votes d'extrême, que ce soit de droite ou de gauche.
Pour d'ailleurs, les idées très réductrices et simplistes.
Voilà, pour un manque de compréhension de la société dans laquelle évolue. Et je crois que focaliser que sur les quartiers, ce qui est en train de se faire en ce moment, moi, ça me fait un peu peur, parce que je me dis que de toute façon, ça fait 40 ans qu'ils font ça et finalement, il n'y a pas de solution. Donc, est-ce que c'est vraiment bien ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut parler de ghetto? Est-ce qu'il faut parler de ça? Je crois que c'est pas un faux problème, mais il faudrait pas que ce soit que la partie immergée de l'iceberg.
Voilà, c'est vrai. Alors pour revenir sur la question du et après, de ce fameux et après, j'ai lu aujourd'hui un article dans Libé sur le site internet qui s'appelait Chronique d'un Charlie couille molle ordinaire. Alors, je vous lis, c'est une tribune. Je vous lis le chapeau. Après l'électrochoc des attentats, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire maintenant? Soyons honnêtes, rien. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de cette tribune dit, ben voilà, je suis allé défiler ce fameux 11 janvier, je me suis posé toutes ces questions, qu'est-ce qu'on a raté, etc. Et puis il se dit, ben finalement, dans ma vie au quotidien, pendant 3 jours, je me suis dit, je vais m'impliquer dans une association, je vais faire ceci, cela. Mais passer le choc de l'émotion, qui sur les 4 millions qui étaient dans la rue et puis tous les autres qui ne sont pas venus, quelle part va oser ou décider de prendre les choses en main à son échelle et de bouger? À un moment dans l'article, il dit il faudrait une mobilisation de toutes ces couilles molles ordinaires comme moi. Et oui, il faut appeler à ça. Mais ça pose une vraie question. Et je pense que la thématique de la culture, de l'accès à la culture, de la diffusion de la culture est essentielle. Quand on voit ce qui se passe, alors Marie, tu as écrit un papier aujourd'hui sur une bibliothèque d'un centre culturel qui
Absolument.
A brûlé, que la culture est attaquée, des œuvres d'art ont pu être détruites, etc. Il y a une vraie volonté de mettre des ornières aux yeux des personnes et de les enfermer dans un microcosme, un micro-monde. Et je pense que la culture, l'accès à tout ce qui se passe ailleurs, ça aide à quel que soit son milieu social, à ne pas tomber dans des embrigadements.
C'était la conclusion d'ailleurs de Boris Cyrulnik, où il disait effectivement que une des solutions, c'était la culture et de terrain, et au quotidien et tous les jours et auprès de tout le monde. Et effectivement, ça permettait d'éviter de manger les slogans tout près et le prêt-à-penser, et d'aller se poser des vraies questions et de réfléchir un peu plus loin que juste une manifestation.
Ouais. Avec la vraie difficulté que la culture, on le sait, quels que soient les gouvernements, on faut mettre l'exception Mitterrand dans son premier mandat qui avait doublé, voire triplé, je crois, le budget de la culture. dès qu'on a des coupes à faire dans des budgets, enfin la culture, que ce soit au niveau national ou local, en prend toujours un grand coup. Alors que...
Mais ça rapporte pas à la culture, mais voyons, mais c'est ça quoi. Enfin,
je crois que c'est Churchill qui dit que ça sert à rien de faire la guerre si tu te bats pas pour la culture. Ça n'a aucun sens.
Allez, petite pause musicale dans ton livre sur HDR. C'était IBI et le morceau s'appelle River. Leur première EP, je crois, sort tout prochainement ou vient de sortir. À écouter absolument une vraie pépite que j'adore. Pour continuer ce ton libre jusqu'à 20h sur HDR 99.1 ou sur les internets www.radiohdr.com partout dans le monde. Donc jusqu'à 20h, c'est ton libre. Et ton libre, on l'écoute partout dans le monde, je le disais, et particulièrement à Washington DC, où vit maintenant depuis de belles longues années Stéphane Emmanuel, et qui lui aussi a eu envie de partager avec vous tous et avec nous dans ce studio une chronique sur, sur la liberté et puis sur Charlie Hebdo. Eh bien, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite.
Non, le 7 janvier n'est pas un 11 septembre. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire leur revue de presse chaque matin ont vu beaucoup de dessins depuis deux semaines, y compris deux crayons rappelant les tours du World Trade Center et les attentats de 2001 à New York City. Mais non, le 7 janvier n'est pas un 11 septembre. D'abord par le nombre de victimes. Une vingtaine contre des milliers, encore que le prix d'une seule vie étant inestimable, 20 ne valent pas moins que 4000 à mes yeux. Les moyens, certes impressionnants à New York, n'ont cependant pas nécessité d'armes lourdes, pas de Kalachnikov ni de lance-roquettes dans les avions. Enfin et surtout, les tueurs à Paris ne formaient pas un commando suicide, mais se sont enfuis, dans l'espoir sans doute de poursuivre leurs actes barbares. Ils ont fini par trouver la mort dans une imprimerie, comme quoi Allah a de l'humour. Je reviendrai dans un instant sur leur fin. La violence. J'ai passé des jours à essayer de... Chaque jour. Plusieurs fois par jour. Ça me venait comme ça. Je visualisais, quand j'étais en conférence de rédaction ou dans n'importe quelle autre réunion, ce que cela ferait si tout à coup un groupe de tueurs débarquait et massacrait méthodiquement les personnes présentes. Imaginez, là, dans le studio de Radio HDR, deux, trois types qui débarquent et bam, bam, bam. Alors évidemment, quand j'ai raconté ça aux gens avec qui j'étais en réunion, sur l'instant, je les ai choqués. Mes proches, mes amis, mes confrères, mes collègues, français, américains, autres. Et je visualise ça parce que quelques heures avant de prendre mon avion à Roissy pour rentrer ici à Washington, le 6 janvier, j'étais passé chez Charlie. À peine quelques minutes. Alors depuis, je visualise la scène. Certains en France ont réclamé un Patriot Act à la française. Décidément, les comparaisons faites par les Français avec nos frères américains sont nombreuses et hasardeuses. Heureusement, les mesures prises par Matignon vont dans un meilleur sens. C'est Benjamin Franklin qui disait « Un peuple prêt à sacrifier un peu de sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux. » Les Américains ont fait cette erreur. Ne faisons pas la même. Nous sommes toujours debout. Nous sommes Charlie. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien, ils ont le droit de ne pas l'être. Oui, c'est Voltaire qui l'a dit. Je ne sais pas si Voltaire aurait été Charlie, mais Voltaire a dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez les défendre. » Il n'est pas facile d'être musulman ou arabe en France après le 7 janvier, comme il n'était pas facile de l'être non plus aux États-Unis après le 11 septembre. Et cela est sans doute la seule similitude entre les deux attentats. Le 19 janvier, lundi dernier, soit 12 jours après l'attentat, l'Observatoire national contre l'islamophobie a dénombré 116 actes anti-musulmans. C'est inacceptable. C'est insoutenable. Tout aussi insoutenable et inacceptable, cette récupération politique, notamment de tous bords, même des politiciens étrangers et des chefs de gouvernement de surcroît, hein. Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, qui insulte les Français en marchant à Paris. « Juifs de France, Israël est votre foyer. » Et bon nombre d'entre eux lui ont répondu « La France est notre foyer, pas Israël. » On avait déjà eu droit à un chef d'État qui nous insultait, le premier du genre, Nicolas Sarkozy, qui nous disait « La France, on l'aime ou on la quitte. » Sur quoi j'avais répondu après avoir un peu hésité à le renvoyer à son fameux « Casse-toi, pauvre con, finalement, la France, on l'aime ou on la change. » Et les deux ne sont pas incompatibles. Tiens, d'ailleurs, le petit Nicolas est revenu en coup de vent, s'incruster sur la photo qui devait être historique. Non, Nicolas, c'est fini, vous n'êtes plus président, vous savez. Allez, il faut partir maintenant, il faut laisser les gens travailler tranquillement. Voilà ce que j'ai envie de dire au petit Nicolas, avec ce ton qu'on emploie généralement quand on est personnel de santé ou patients qui ont perdu la boule. L'éducation est la solution, dans le temps. La solution immédiate, c'est la justice. Je regrette que les tueurs soient morts dans l'assaut final. J'aurais voulu les voir juger. J'aurais voulu les voir constater l'ampleur de la résistance qu'ils auraient faite. Je leur dirais, Ne craignons pas de dire que les musulmans sont de bonne foi, dans tous les sens du terme, je précise. Quand ils se disent choqués par la nouvelle une de Charlie, même si parmi ceux que je connais, en France, au Maroc, en Algérie, en Turquie, ou ici, aux États-Unis et au Canada, certains de mes amis, musulmans, partagent le sens de l'humour de Charlie. Alors je sais pas, c'est peut-être la couleur. Le fond vert, la couleur de l'islam. Peut-être qu'on aurait dû mettre du rouge sang ou du noir ténèbres. Mais le vert, c'est aussi la couleur de l'espoir, non? Qui connaît Charlie? Les assassins connaissaient Charlie et ses habitudes. Tout avait été minutieusement préparé. J'avais dit que je reviendrais sur la fin des tueurs dans cette imprimerie. Je regrette qu'il soit mort, oui. J'aurais voulu, en effet, de les voir devant la cour. J'aurais voulu les voir en prison. J'aurais voulu qu'ils voient pourquoi leur combat est perdu d'avance. Qu'ils voient tout... cette mobilisation, ce cri de l'humanité à travers le monde entier, qu'ils voient que non, ils ne nous font pas peur. Mais ils sont morts. D'autres, leurs frères d'armes, voient pour eux. On peut s'adresser à eux. Mais ça, je l'ai déjà fait sur la télé américaine. Maintenant, je m'adresse à nous, sur la radio française. Parce que je m'interroge. Dans le monde, des centaines de millions, des milliards, paraît-il, de personnes se sont levées pour faire entendre leur voix, leur indignation face aux attentats, leur soutien à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la démocratie, à la paix, à tout un tas d'autres revendications locales, propres à chacun. Ici, à Washington, la marche du 12 janvier a même donné lieu à des panneaux dans la foule libérés tels prisonniers en Arabie Saoudite. Ou même une autre dénonçait, on ne sait pas trop quoi, concernant le Vietnam. Je n'ai rien vu sur la levée de l'embargo sur Cuba. Mais les choses étant en voie de s'améliorer. Et Madame Christine Lagarde, directrice du FMI, qui devait rejoindre la marche ici, en réalité, c'est la marche qui l'a rejoint. Cette marche a été mise en scène pour que des centaines de participants, dont j'étais, servent de background pendant 45 minutes aux stars qui se pavanaient devant les caméras de télévision à l'entrée du Newseum. Merci, Madame Lagarde. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Merci pour votre présence. Les vraies stars de cette marche étaient bien là, mais parmi les étoiles, justement, bien plus haut que le ras des pâquerettes du spectacle offert sur le bitume. Merci pour cette Marseillaise aussi entonnée à l'arrivée de la marche au National Law Enforcement Officers Memorial. C'est vrai que Charb, Cabu, Volinsky, Tignou, Sonoré et les autres ont dû avoir la putain de larme à l'œil en entendant s'élever vers eux le refrain appelant aux armes citoyens. Merci. Merci de n'avoir rien compris. Vous justifiez ainsi la nécessité impérieuse de préserver la presse indépendante, caricaturiste, impertinente et irrévérencieuse, la liberté de ton qui agace et tous les grincements de dents au rire jaune que mes confrères et moi-même provoquerons toujours avec autant de plaisir que de sens du devoir. Merci de légitimer ainsi Charlie. Je vous remercie, oui, à mon tour, puisque je ne m'étais pas associé au bravo et au merci que vous lancez en vous applaudissant des Français de vos amis présents dans cette marche aux allures de campagne électorale. Allez, je ne vous hais point. Après tout, pour verser dans votre propre cynisme, le mépris est une chose à distribuer avec parcimonie en raison du grand nombre de nécessiteux en la matière. Et j'ai distribué déjà les plus grosses parts aux intégristes de tout crin. Je me suis adressé à eux sur ABC 7 News pour leur dire que non, ils ne pouvaient pas gagner ce combat. Que plus ils nous tueraient, plus nous serions nombreux, forts et unis. Que plus leurs canons nous cracheraient dans le ventre, plus nos crayons, stylos, micros et caméras leur cracheraient leur vérité à la gueule. Vous imaginez bien que la télé américaine a coupé mes propos les plus crus pour garder la sauce tant appréciée de ce côté de l'Atlantique, ce que j'appelle couramment la dripping compassionate culture, la culture dégoulinante de compassion. Alors merci bien tout le monde, mais pardon. Le monde entier fait de la récup sur le dos des victimes des 7, 8 et 9 janvier. Il n'y a pas que Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, Benjamin Netanyahu et tant d'autres, dont l'attitude est indigne et condamnable. Jusqu'au Cachemire, on a entendu des « Je suis Charlie ». Combien d'abonnés au Cachemire déjà ?« Je suis Charlie » est devenu un crime mondial un peu fourre-tout. « Vous êtes Charlie ? Super ! Mais pourquoi faire ?» Vous êtes-vous seulement posé la question avant de pousser ce cri ? Allez. Trêve de bile et d'Union Nationale, au passage, grâce à M. Sarkozy qui a encore tout compris, si tant est qu'Union Nationale y ait réellement jamais eu, je suis juste en colère et j'ai honte. Parce que nos enfants assassins nous habillent de honte et de colère. Certes, le terrorisme n'a ni religion ni nationalité, il est universel. Face à la violence et à la haine, c'est tristesse et colère. Mais c'est la honte aussi. J'ai honte du comportement de la classe politique de mon pays. J'ai honte de mes concitoyens qui se croient autorisés à revendre à prix d'or des numéros de Charlie Hebdo aux enchères sur eBay. J'ai encore plus honte de mes concitoyens qui les y achètent. J'ai honte de mes concitoyens anciens militaires qui sont devenus mercenaires et forment aujourd'hui Daesh et Al-Qaïda au Yémen. J'ai honte de nos métiers d'intellectuels, de pseudo-intellectuels et d'ayants droit intellectuels, de journalistes, d'écrivains, même d'enseignants, de chercheurs, de penseurs et de stratèges qui ne sommes pas foutus capables de faire comprendre que l'indignité nationale, nous en portons tous une part de responsabilité en chacun de nous, déjà. Merci, et là c'est un merci sincère à Antoine Sfer, qui disait, cet éminent confrère qui disait il y a quelques années à Rouen, qui précisait la différence entre tolérance et respect. C'est de respect dont nous avons besoin. Merci, éminent confrère, pour la hauteur de vue qui est la tienne et dont je regrette seulement qu'elle soit si rare dans notre profession. La justice, réponse immédiate. L'éducation, réponse à long terme. Et comme disait un certain Abraham Lincoln, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance pour voir. Le respect, toujours, partout. Ça n'empêche pas la caricature. Ça n'empêche pas de se moquer. Il faut faire là aussi la part des choses et pas d'amalgame. La stratégie dans la diplomatie française est peut-être à revoir aussi. Mon message de fin est celui-ci. La tâche qui nous attend depuis longtemps nous impose aujourd'hui cruellement son urgence. Et nous ne réconcilierons pas notre société sans lever les tabous. Et parce que je dois terminer cette chronique interminable et mal préparée, je vous l'avoue, tant il m'a fallu de jours pour que ma concentration ne dépasse enfin mon émotion, ce qui n'est pas tout à fait accompli encore, je vous invite juste à réfléchir devant ce film que j'ai vu cette nuit et que vous trouverez facilement sur le net, Les Chevaux de Dieu, un film franco-belgo-marocain réalisé par Nabil Ayouch, sorti en 2012, inspiré d'un roman de Mahi Binebine, Les étoiles de Sidi Moumen, qui évoque un fait divers authentique, le 16 mai 2003, les 5 attentats suicides qui ont ensanglanté la ville de Casablanca. Pour finir, un bref salut à mon ami Étienne Noël en ce jour de son anniversaire pour son combat pour la justice et l'humanité de la justice. Étienne, que les auditeurs d'HDR connaissent bien, je te souhaite de poursuivre et pas qu'en justice. Et je pense surtout aux amis que nous avons perdus. Je ne suis pas inquiet pour la santé financière de Charlie, mais le fait que la toute première génération ait été anéantie me fait craindre davantage pour sa santé mentale. J'entends par là pour la liberté de ton qui était la sienne, qui datait des années 80, une époque où la presse était plus libre qu'aujourd'hui, dans les faits. À celles et ceux qui restent, mes amis, je vous fais confiance, mais le chemin ne sera ni facile ni sécure. Raison de plus pour l'emprunter et pour le rendre plus accessible. C'était Stéphane-Emmanuel Reynaud de Fitte depuis Washington DC pour le mix des cultures sur Radio HDR. À vous les studios et que la force du mix soit toujours avec vous. Ciao, bye.
Alors sans transition, hein, nous sommes passés de Stéphane Emmanuel, dont on sentait l'émotion, à ce petit chant de Philippe Catherine, choisi par Hélène.
Par moi-même, par ouais. Mes soins, je l'ai choisi pour la qualité de son texte quand même, qui, pour résumer la chanson, en fait, parle de liberté mon cul,
bah,
égalité mon cul et fraternité mon cul, voilà, vous avez tout compris. C'est facile à retenir, tout ça. Donc oui, moi je voulais parler un petit peu dans le micro, parce que moi j'aime bien ça sur ton livre. Et en fait...
C'est mieux
quand même.
toujours avec un micro.
Alors je voulais vous faire des quiz, parce que vous me connaissez, j'aime bien vous faire parler, tout ça.
Tester
et puis,
nos
des
connaissances.
Définitions. Bah, je voulais parler des mots en fait, pour bien définir de quoi on parlait. Et en fait, j'avais plein de choses à vous raconter, mais j'arrivais pas à mettre en forme. Pourquoi ? Parce que je me posais trop de questions et j'avais pas les bonnes réponses. J'arrivais pas à mettre en ordre tout ça. Et donc, finalement, pour pas avoir de réponses trop faciles et des grandes leçons à donner, que je n'ai pas à donner d'ailleurs, pour essayer de comprendre toutes ces choses qui vont trop vite, qui nous échappent, se faire des buzz médiatiques, on est envahi d'informations, d'articles, de machins, de trucs, ça nous échappe. Alors moi je me suis posé plein de questions, et peut-être que vous en aurez aussi d'autres à rajouter à la liste, de un peu comment ça s'est passé dans ma tête pendant tous ces derniers jours, depuis le 7 janvier. Alors, qui sont ces gens capables de tuer de sang-froid des personnes qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'ils sont fous? Quel est leur parcours de vie pour en arriver à choisir de mourir en tuant? Comment va-t-on réagir à tout ça? Comment doit-on réagir à tout ça? Va-t-on encore pouvoir suivre en direct la traque des suspects? Est-ce qu'ils vont être arrêtés pour être jugés, pour les entendre et comprendre tout ce qui s'est passé? Pourquoi Charlie? Je connais le journal, mais je me souvenais des procès, mais enfin bon, pas plus que ça. Comment peut-on laisser les télés filmer en direct au risque de donner des indications aux preneurs d'otages et mettre en danger les otages? Pourquoi en faire un tel buzz médiatique? Dois-je aller aux marches? Pourquoi? Quel sens ça a pour moi? Dois-je mettre le slogan « Je suis Charlie » sur mes profils Facebook et Twitter? Pourquoi? Comment puis-je en parler? Quels sont les articles qui me permettent de comprendre un petit peu? Que disent ces attentats, comme tous les autres attentats? Qu'est-ce que vraiment le terrorisme? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot, terrorisme? Quelle est la carte réelle du terrorisme dans le monde? Quelle est la carte du radicalisme religieux? Qu'est-ce qu'on appelle radicalisme religieux? En tant qu'athée, qu'est-ce que le blasphème? Je me suis vraiment posé la question. Quelle est la différence entre religion, croyance, croyant? Quelle est la place de la religion dans toute cette histoire? Quelle est la place de la religion dans le monde? Au fait, c'est quoi la liberté d'expression? Et c'est quoi la liberté tout court? Et pour illustrer tout ça, je peux quand même vous poser des questions, parce que j'aime bien, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai récupéré un graphique et une carte du monde. Je me suis posé la question justement de mon athéisme dans le monde, et en fait je me suis rendu compte qu'en fait on était un peu seul. Est-ce que vous savez le pourcentage d'athées déclarés? Parce que c'est vraiment, c'est une déclaration, hein, donc après...
Ça peut être très important.
En France, dans le monde déjà, dans le monde.
Dans le monde, hmm, 5%.
Non, 5% plus. 10,
ouais. Je sais pas.
10, ouais. Ah c'est pas mal, 13%.
13%, d'accord.
Voilà. Et en France, on est presque les champions du monde de l'athéisme. Ça monte à 29%.
Wow.
Ah,
wow,
énorme. Donc c'est vrai que moi, ça m'a vachement remis en perspective le rôle de la religion dans les sociétés, parce que ouais, j'ai la carte du monde sous les yeux, on pourra la mettre sur ton blog pour la diffuser. Et en fait, il y avait le pourcentage d'athéisme convaincu et déclaré dans tous les pays du monde. Et en fait, ça va que jusqu'à 40%. C'est-à-dire, d'accord, que dans aucun pays du monde, il y a plus de 50% d'athées déclarés. Et c'est vrai que...
Ah bah, tu vois, pour le coup, ça c'est vrai. Vraiment pas des infos que j'avais en tête. Ça, ouais, c'est
Et moi, ça m'a vachement interrogée, parce que pour moi, ça me paraissait évident d'être athée, et que j'avais quelques amis qui étaient pratiquants ou qui ont été baptisés à la naissance en France. Et c'est vrai que quand on interroge sur la religion musulmane qui envahit les médias, parce qu'on en parle tout le temps, malheureusement un peu trop, et voilà, ça m'a fait question. Et pareil, je suis tombée aussi sur un graphique qui posait la question dans le monde entier, sur 100 personnes, combien sont musulmans dans votre pays? Et donc c'était vraiment le ressenti du pourcentage de musulmans dans notre société. Alors c'est intéressant, alors je vais vous poser la question, combien il y a de parts de personnes musulmanes en France par exemple, pour vous?
Qui se revendique de la religion musulmane.
Qui se revendique musulman en France?
Moi j'ai vu sur ton papier.
15,
moi.
15, 20, 20.
Moi je réponds pas parce que je l'ai vu.
Ouais, tu l'as vu. Ouais.
Je l'ai vu aussi, je m'en rappelle plus, mais c'est en fait c'est pas très, si important que ça.
Ben non, il y a que 8%.
Et, ouais, 8%.
Et en fait les gens répondent jusqu'à 31%. Mais effectivement, ouais. Alors du coup, il y a une différence de 23% d'écart entre la réalité et ce qu'on imagine. Alors du coup, ils ont fait la même chose aussi dans d'autres pays du monde, et c'est assez impressionnant. Par exemple au Canada, il y a que 2% de personnes musulmanes, et en fait les personnes ont répondu qu'il y avait 20%, un cinquième de la population. Ça montre aussi le traitement dans les médias de la part de cette religion. Et aux États-Unis pareil, il n'y a que 1% de personnes musulmans déclarées, et 15% des gens qui pensent qu'il y a, enfin, 15%. Ouais.
Ça interroge sur les médias, mais aussi du rapport des gens au réel.
Oui, comment, complètement.
Voilà, quelque chose qui ne leur ressemble pas, il lui donne beaucoup plus de place que les chiffres peuvent donner. Alors, je voudrais qu'on retourne...
Alors voilà, posez-vous des questions.
Ouais,
c'est la conclusion.
Je pense que cette liste de questions...
Culturez-vous.
Elle est très riche et ça pousse... Si on en prend une et qu'on arrive à trouver une réponse de temps en temps, ça sera déjà très bien. Alors je pense que, Émilien, tu as continué à poser des questions justement aux personnes que tu as rencontrées dans la rue dimanche 11 janvier à Rouen. Et je te propose qu'on retourne à leur rencontre immédiatement.
Ça marche. Notamment une des questions que je me posais, c'était qu'est-ce que ça signifie aussi pour eux, Je suis Charlie. Qu'est-ce que ça représente pour eux quand ils arboraient ces pancartes-là.
Donc on y va, on y retourne.
Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici aujourd'hui ?
D'abord, choqué viscéralement par ce qui s'est passé. Pour la liberté de la presse, pour la sécurité. Moi, j'ai un sentiment par rapport à la gentillesse de ceux qui faisaient les caricatures. Et donc, on doit faire bloc aujourd'hui. Et je pense que les citoyens se réveillent. Je pense que les citoyens ne dorment pas. Ils ont toujours quelque chose dans le ventre. Et on est là aujourd'hui, on sera là à Paris, et nombreux. Et je pense que c'est un sursaut. Malheureusement, il y a des gens qui ont laissé leur vie. Quoi. Voilà.
Vous portez un écriteau
de nombreux écriteaux. Moi, je suis Charlie, mais un peu dans toutes les langues, parce qu'il y a une réaction internationale à ça.
Je suis Charlie, ça a quelle résonance pour vous aujourd'hui? C'est la liberté d'expression, la résistance, rester debout. Ça signifie quoi?
Ouais, c'est pouvoir rire de tout, y compris de la religion. Personne ne peut s'affranchir, aucun dispositif, aucune institution. On est ici en France pour pouvoir encore rire de ça. Je regardais sur BFM TV ce matin, le prochain Charlie Hebdo, il va nous faire rire. Et on continue à rire.
Merci beaucoup, monsieur.
Alors, petit retour dans ces rues de Rouen. J'ai pas pu passer l'ensemble du reportage parce qu'on est un peu juste en temps, mais sur le blog, je vous propose qu'on le mette dans son intégralité, comme ça vous pourrez aller un peu plus à la rencontre des Rouennais. Guillaume, tu n'as pas préparé de chronique, mais tu as ramené une chronique d'une certaine Céline.
Tout à fait. On a le temps ?
C'est 2 minutes 30, tu m'as dit ?
À peu près.
Ok, on écoute tout de suite et puis après on se dira.
Ça marche.
Le H de semaine. Mercredi, jour des enfants. 11h30 et des poussières, c'est mon âme d'enfant qui vole en éclats. Élevée dans la tolérance et l'ouverture d'esprit, j'avais presque oublié à quel point ces valeurs sont précieuses et fragiles. Aujourd'hui, j'ai entrevu la terreur, le sang, l'angoisse dans laquelle vivent des millions de personnes dans le monde. Ces bas de troisième page de journaux ont aujourd'hui un goût, un son, ceux de l'horreur. Aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux et j'ai peur. De cette barbarie un peu, mais surtout de ces ombres insidieuses qui vont rôder demain, dans les regards et sur les mots. J'ai peur. Jeudi, enseignement. Réveil douloureux. Il va falloir mettre des mots choisis, pesés, justes et sensibles. Exercice de style. 80% d'élèves musulmans ici. Chaos des représentations, opinions calquées, tranchées, confuses, amalgames, provocations, interrogations. Nous sommes choqués, à fleur de peau, mais pas pour les mêmes raisons. Le choc est rude. Qu'avons-nous loupé ? L'école seule ne peut pas lutter contre le mal-être des cités. Ces jeunes se sentent mal aimés, rejetés par la société. Leurs mots sont bruts, violents, acérés. Sentiment d'échec et d'impuissance. J'ai mal.
Alors, comme font les nouveaux médias maintenant, cette émission sera augmentée sur le blog, puisqu'on aura l'ensemble du reportage d'Emilien et le reste de cette chronique, un petit avant-goût. Alors Guillaume, dis-nous qui est Céline et pourquoi elle a voulu écrire et partager ce son avec nous.
Alors Céline, en plus d'être une chouette fille que je connais, c'est trois personnes à la fois. C'était une citoyenne ce soir, c'était une enseignante. Si on a la suite de la chronique, c'était une maman. Et elle raconte un petit peu comment elle avait vécu. Voilà, c'est une enseignante en région parisienne, comme elle dit dans la chronique, où il y a beaucoup d'enfants musulmans dans ses classes. Et elle a mal vécu, premièrement, les attentats de Charlie Hebdo par conviction, par son métier et par son rôle de maman. Donc voilà, à suivre sur ton blog, et puis on verra ça plus tard.
Ça marche, bah on écoutera la suite. Et puis bah voilà, vous le savez, chers auditeurs, ton libre, ça passe toujours trop vite. Il est l'heure de nous dire au revoir.